Seigneur notre Dieu, quelle joie. Je n'ai pas de mots. Et bien voilà que dans cette église, j'entends une prière en arabe. Seigneur, je ne sais pas comment tu le dis. Merci. Je remets entre tes mains ces paroles qui vont être partagées et que tu puisses parler au cœur. Merci. Amen.
Amen.
Juste une question. Est-ce qu'un nom genre Benoît Patricia Mougel te dit quelque chose? Non. Patricia Benoît Mougel, ça te dit quelque chose? Non. Donc, c'est des missionnaires qui sont en Tunisie depuis des années, ils sont à Tunis même. Donc c'est pour ça que je pose la question. Très bien. Alors, nous sommes dans l'évangile de Marc et nous l'avons commencé pas mal, il y a quand même un certain temps et nous avons pris l'habitude de nous attarder un peu sur les passages. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 1, versets 12 à 15. Je vais le lire d'abord. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de choses à dire. Si je prends mot à mot, chaque mot, on peut faire un message. Oui. Mais, comme Toby est en train de me dire, non, surtout ne fais pas ça. Alors, il faut bien qu'on avance, parce que ça fait pas mal de temps qu'on est dans ce passage au début. J'ai commencé la méditation il y a quelques jours déjà, et comme d'habitude, on va trop loin et on revient, et à la fin, je ne pourrai même pas vous parler du contenu de la tentation. Donc je vais me limiter à ce qui est écrit là, parce qu'il y aura d'autres occasions, on parlera du contenu de la tentation, et on verra que cette tentation est la même. Adam et Ève ont suivi dans le jardin d'Éden, et en plus c'est la même tentation, les mêmes épreuves que le peuple hébreu a vécu sur la route de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Y compris dans les réponses que le Seigneur a faites, en faisant appel au passage dans Deutéronome, qui fait appel à l'Exode, en évoquant à travers les trois versets que le Seigneur a sortis, il a évoqué l'histoire de la manne, il a évoqué l'histoire de l'eau qui sort du rocher, et il a évoqué l'histoire du veau d'or. C'est les trois éléments qui concernent la tentation de l'être humain. Le ventre, le plaisir, la tentation de Dieu, avec le doute, et le veau d'or, on a tous nos veaux d'or. Et ces trois choses-là, le Seigneur les a vaincus dans sa tentation dans le désert. Et cette victoire qu'il met à notre disposition. Si nous subissons ces trois tentations-là, vous saurez que nous avons un Seigneur qui a déjà vaincu. Et c'est lui qui peut nous faire vivre la victoire. Si nous cherchons à nous vaincre nous-mêmes, c'est perdu d'avance. J'ai mis le titre de l'évangile de Marc, c'est la première phrase de l'évangile, c'est le titre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. En fait, Marc est en train de nous dire, voilà le titre de l'évangile, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le fils de Dieu. Je vais vous parler de Jésus en tant que Christ, fils de Dieu. La première phrase. Et maintenant, il m'a dit, vous avez compris le titre? Et bien maintenant, je vais vous faire l'évangile. Il est en train de répondre à la première phrase. C'est exactement la même chose que la confession de Pierre auprès de Jésus, quand il lui a dit, qui dis-tu que je suis? Il lui a dit, tu es le Christ, fils de Dieu. Marc est en train d'expliquer l'évangile. Il fallait donner un titre à ce message d'aujourd'hui. Et en le lisant pendant des heures, j'ai réalisé en fait tout simplement, on arrive à la conclusion, tout ce que je vais partager avec vous, c'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est que Christ est notre moule, notre modèle. Il ne faut pas qu'on dévie. Il faut qu'on soit dans le moule. Si on est en dehors, on est à côté. Et à côté, c'est la traduction du péché qui vient du mot rata, qui veut dire rater la cible. À côté, c'est le péché. C'est pas mentir, tout ça, non. La racine, c'est être à côté. Et bien, notre position, il est en Christ. Merci de l'avoir rappelé. C'est pas avec, c'est pauvre avec. C'est la religion avec. C'est l'islam dans lequel j'étais avec. En. C'est la communion. Et c'est pour ça que je dis toujours que la Christ, la foi, si on me demande de témoigner, je résume en une phrase. D'une relation à une communion. Voilà mon témoignage. Je suis présent d'une relation, les efforts, et on n'est même pas certain. Et en plus, l'effort nous-mêmes, quelqu'un qui s'efforce de changer alors qu'il ne peut même pas changer, vers une communion, m'asseoir dans un moule. C'est ça le repos. Et souvent, notre vie chrétienne, c'est entre relation et communion. On est en course, en cours. Mais ça ne va pas, ça ne change pas ma vie, on fait semblant, tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réalisé que nous sommes appelés à nous asseoir dans un moule. Mais quand on le réalise, c'est à ce moment-là que l'Esprit commence son œuvre. C'est ce qu'il nous explique. C'est ce passage-là que j'ai envie de partager avec vous. L'évangile de Marc, on l'appelle aussi le livre du parfait serviteur. On l'appelle comme ça le livre. Pourquoi? Parce que voilà un verset au cœur de l'évangile de Marc. C'est pas par hasard qu'il est au cœur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Nous sommes appelés à être serviteurs de tous. Je ne viens pas pour être servi, non. Je viens pour vous servir. Si on a cette là dans la tête, dans le cœur, on a compris un peu en avance. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà le cœur de l'évangile de Marc. Et en lisant avec attention l'évangile de Marc, qui est court, facile à comprendre, hein, on est frappé par la répétition du mot « aussitôt ». C'est le seul évangile où on trouve autant de mots « aussitôt » immédiatement. Cette expression est utilisée entre 40, 41, 42, une quarantaine de fois dans les 16 chapitres de Marc. Et juste le premier chapitre, j'en ai relevé. Alors, je me suis limité juste au premier chapitre. Aussitôt, aussitôt, aussitôt. À l'instant même, immédiatement. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, si on lit sa Bible, on a tout de suite le lien avec que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a que nous qui créons le temps. D'ailleurs, c'est une erreur, le temps n'existe pas. On le confond avec la durée, déjà. À moi, peut-être que je me trompe. Le temps. Qui peut définir le temps? On touche chacun à définir le temps. Mais par contre, la durée, oui. Le Seigneur, il y a une immédiateté. Avec le Seigneur, c'est comme une pièce de monnaie, en fait. Nous, on sépare. On dit, il y a pile là. Il y a face là. Et on dit, pour aller de pile à face, il y a le temps. Le Seigneur a dit, non, c'est la même pièce. Avec le Seigneur, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de... C'est la même chose, immédiatement, aussitôt. C'est l'action créatrice. C'est le verbe créateur. C'est l'évangile de Marc, c'est le livre de la vie, du mouvement et de l'être. Je ne vous invente rien du tout. C'est tout simplement un passage dans l'acte des actes des apôtres. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Je peux me baser sur la chronologie pour vous parler un peu de... Pour intervenir ce matin, je vous dirais, jusqu'à maintenant, rappelez-vous ce qu'on a dit. Le Seigneur était en Galilée, Nazareth. Il a décidé d'aller vers le baptême dans le Jourdain. D'accord? Et quand il est arrivé dans le Jourdain, on nous dit que c'est le baptême de repentance. C'est ce mot-là. Il faut que tu saches, cher Jean Daris et cher Aménie, le mot repentance en Occident, ça a un problème. Il faut l'effacer. Ça pose problème. Dès qu'on repentance, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est au centre. Sans repentance, il n'y a pas de vie chrétienne. Il est allé vers le baptême de repentance, et quand il est passé par le baptême de repentance, c'est à ce moment-là que la voix s'est venue du ciel, « Voici mon fils bien-aimé. » Et c'est le Seigneur, comme il est concret, il a dit, « Vous voulez que je le certifie ?» Le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Et c'est seulement après, nous on inverse les choses, hein. Et seulement après, le Seigneur était amené vers le désert, se confronter au diable, aux bêtes sauvages, tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Ma soeur, mon frère, tu as reçu le Seigneur. Viens, viens, allez. Vas-y, va prêcher là-bas, dans la vie. Mais attendez. Baptême de repentance. Le Dieu qui certifie que nous sommes ses fils et ses filles. L'Esprit de... C'est tout un apprentissage. Mais pourquoi on gomme l'apprentissage? C'est à ce moment-là que le Seigneur dit, maintenant vous êtes armés, vous n'êtes plus avec moi, parce que vous êtes en moi. Là, on y va ensemble. Vous voyez? Juste ça, juste ces phrases-là, ça nous donne la chronologie même de la vie d'une église. Je dis toujours, si on a des questions sur ce que c'est que l'église, ce qu'est la vie chrétienne, moi je dis toujours, allez regarder le cheminement du Seigneur. C'est notre modèle. Et nous avons la vie de l'église. Nous avons notre comportement. Vous avez un problème avec le baptême, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il s'est baptisé. Alors on ne pose pas de questions. Pourquoi tu peux te poser des questions alors que le Seigneur lui-même, notre modèle, notre moule, lui, il est parti de lui-même alors qu'il n'avait pas besoin de baptême. Et il s'est fait baptiser. Et moi, je dois dire, je dois réfléchir pour me faire baptiser. Est-ce que c'est théologique ou pas? Il faut que je vaille à l'université. Attendez, non. Il faut quand même que je fasse une formation pour me baptiser. Et voilà, les pasteurs, on va faire une année de formation. Alors maintenant, tu es convaincu pour le baptême? Ah, intellectuellement, je suis d'accord. Il a fait ça, le Seigneur? Non. Et alors, pourquoi on complique? Et après, on dit, la vie chrétienne est difficile. Venez à moi comme des petits enfants. C'est cela, toute la bonne nouvelle. C'est le Christ qui a accompli tout ce cheminement et qui va trouver son apogée à la croix. Voilà encore quelque chose de crucial. Et ça me permet de rappeler ma sœur et ma fille qui est là. Souvent, on me dit, mais on a le même Dieu. L'islam, je me dis, oui, mais dans l'islam, ils disent que Christ n'est pas mort sur la croix. Alors, comment voulez-vous que j'ai un écuménisme et prier avec un musulman? Je les aime, j'aime mes parents, mais c'est ma famille, c'est mon corps, c'est tout ça. Mais se mentir, je vais faire une communion avec une religion qui dit, Jésus n'est pas mort, mais Dieu a envoyé quelqu'un qui lui ressemble, parce que le vrai Jésus monté au ciel sans passer par la mort. Et s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de sacrifice. Alors je suis déjà condamné à perpétuité, à vie. C'est pour ça, il ne faut pas négliger les détails. Il faut être conscient devant Dieu parce qu'on rendra des comptes. Et c'est ça le prix à payer parce que ça a un coût. Et j'aurai l'occasion de te raconter mon témoignage. Je crois que tu en as un aussi de nous raconter. C'est pour ça que je suis pressé. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Aussitôt. L'Esprit, mes frères et sœurs, est dynamique. Il n'est pas, il ne fait pas du surplace. Si nous avons reçu l'Esprit, ce n'est pas possible, il est dynamique. Mais sinon, il s'ennuie chez nous. Ben oui. Il est comme un vent qui souffle où il veut, et on entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de l'Esprit. Et vous connaissez le passage, je vous le rappelle. On ne peut pas rationaliser l'Esprit. Je dis toujours que Dieu ne s'explique pas à Dieu. Je le reconnais. Posez-moi la question, qui est Dieu? Je dis, je ne sais pas. Dieu se rencontre. Oui, mais ne s'explique pas, ne se rationalise pas. D'ailleurs, la vie spirituelle non plus ne se rationalise pas. Comment on se retrouve tous frères et sœurs là d'un seul coup? On a posé des questions scientifiques, que sais-je? Non, on s'est retrouvés, frères et sœurs. En fait, c'est un fait, en fait. La question ne se pose pas. Si on commence à se poser des questions, il faut que tu me prouves que tu es mon frère, ma sœur, parce qu'à ce moment-là, je peux dire à mon cœur de t'aimer. Waouh!
Ça existe.
Ah, c'est terrible. Non, mais alors là, si c'est le cas, il faut se poser la question si on a reçu le vrai amour. Est-ce qu'on a reçu Christ? Quand on a reçu Christ, on ne se pose pas de questions. On aime. L'Esprit ne nous demande pas de nous couper du monde. Ça aussi. C'est pour ça que je suis un peu en contradiction, bien que je ne remets pas... Il y a la volonté de Dieu. Le plan de Dieu nous dépasse. Quand les moines commencent à aller dans des couvents, etc., Dieu peut le permettre. Attention, je fais très attention, parce qu'il n'y a pas comme ça. Le Seigneur, il a plein de plans, tout ça. Mais Dieu ne demande pas de nous couper du monde. Non. Dès que Jésus a reçu l'Esprit, il l'a envoyé dans le désert. Il ne demande pas de nous couper du monde, c'est-à-dire du désert. Mais d'y vivre sans être du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Une nouvelle vie dans un monde ancien qui est sous la domination de l'influence du diable. Et ça aussi, il faut le rappeler. En dehors, parce que souvent, on ne le dit pas. On dit, Il faut mesurer mon mot là. En dehors de Christ, le reste sous la domination du diable. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ben, lisez votre Bible et dites-moi le contraire. C'est clair. Si je ne suis pas en Christ, je le dis bien, je suis ailleurs.
Ah oui.
Et ce ailleurs, veuillez excusez-moi.
C'est clair.
Faut être clair, parce que là, c'est se mentir. C'est ça la repentance. Si on n'est pas en Christ, si je fais semblant, je suis ailleurs. Oui. Et ce ailleurs, mes frères et sœurs, ça me fait mal, ça me fait peur.
Ah oui.
Le diable. La Bible nous dit que l'Église est le sel de la terre. Elle le dit. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce qu'elle nous dit l'Église doit devenir le sel de la terre? Non. Est-ce qu'elle nous dit elle doit devenir? C'est un fait. Dès qu'on reçoit Christ, nous sommes le sel de la terre. C'est un fait. Ce n'est pas une prophétie. Hein. Je n'ai pas vu que c'était une prophétie ou une suggestion. C'est un fait. Mon frère, ma sœur, tu es le sel de la terre. Ne me dis pas, ah, j'espère le devenir. Non, tu l'es. Et si on est conscient qu'on l'est, je peux vous assurer, on ne se comporte pas normalement. Comme je sais que je suis le sel de la terre, quelque chose qui ne va pas dans ma vie, oh, je suis à genoux devant le Seigneur, oh là là, je suis le sel de la terre, mais comment ça se fait? Le sel n'a plus de goût. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui est le même que celui qui est descendu sur notre Seigneur, eh bien, nous devenons le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Maintenant, la question qui se pose, où suis-je par rapport à ce sel? C'est ça, s'examiner devant le Seigneur, mettre à genoux, que je suis tout seul dans mon lit, fait nuit, ou tout seul dans ma chambre. Seigneur, je suis le seul de la terre. Et je m'examine. Et je me rends compte que ma vie n'est pas à quoi sur celle de la terre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Deux choix. Soit je continue à faire semblant et faire croire à mes frères et sœurs à moi soi-même, soit je mets à genoux. Oh, pardon, Seigneur, je suis le seul de la terre, mais ma vie ne correspond pas. Aie pitié de moi, moi, pauvre pécheur. Vous voyez? Et ça, la chair ne l'aime pas. Elle veut toujours faire semblant. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui est le même que celui qui est descendu sur notre Seigneur, eh bien, nous devenons le sel de la terre, la lumière du monde, car nous sommes une nouvelle création. Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes l'habitation de Dieu par son Esprit dans notre cœur. Et comment on sait qu'on est enfant de Dieu? Il y en a qui vont dire, ah ben mon frère me l'a dit. Ah, d'accord. Ah ben ma femme l'a dit, mon mari, mon père, qui sais-je. La vie. La Bible nous dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit qui nous dit enfants de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est une relation personnelle avec le Christ. Pas les autres, pas les habitudes. Ça, mais quelle est ma position en Christ? C'est pourquoi il faut s'examiner, mes frères et sœurs. C'est ce même esprit qui nous confirme que nous sommes en communion les uns des autres, avec les autres. C'est ça, c'est pour ça qu'on se sent bienvenue, on est frères et sœurs. Et alors, on est en Christ. Ben oui, c'est naturel. Et maintenant, je reviens à notre passage, bien qu'on est dedans. Hein. C'est dans le désert, c'est marrant, c'est dans le désert que le Père a envoyé son Fils. Il ne l'a pas envoyé dans un oasis, je ne sais pas moi, des fleurs, des fruits, non, envoyé dans le désert. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce père-là? La première chose qu'il me dit, mon fils, tu as reçu l'esprit, hop, va dans le désert. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est dans le désert de notre cœur, dans le désert de ce monde, que Dieu parle. C'est dans le désert que nous apprenons avec Dieu. Pas quand tout va bien. Quand tout va bien, des fois on n'en a même pas besoin. C'est dans l'expérience de la vie que nous apprenons et que nous avançons. C'est dans le désert que Dieu se révèle, nous attend et nous propose de le rencontrer. Dieu nous invite en fait, pas dans un restaurant dans le désert. Je veux te rencontrer Seigneur, dans le restaurant, je ne sais pas. Non, dans le désert, mais ce n'est pas un lieu de rencontre. Ah si, parce que c'est dans le lieu où tu ne vaux plus rien. Tu n'as rien, tous les soucis derrière toi. Tu n'as rien, tu es tout nu devant moi. Et bien maintenant, je peux te parler parce que tu vas m'écouter. Vous voyez, je trouve que c'est extraordinaire cet enseignement divin. Et si on prend nos témoignages respectifs, on verra que c'est toujours la même expérience. C'est dans le désert que Dieu se révèle. Alors, toujours revenir à la parole de Dieu, parce qu'elle nous parle. La parole de Dieu parle à la parole de Dieu. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et oui, c'est dans le désert qu'il a appelé, hop, là-bas il lui parle. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Dans le désert. En hébreu, qui s'approche un peu avec l'araméen et de l'arabe, le mot désert se dit midbar. Midbar. Le désert n'est pas qu'un lieu aride. C'est aussi le lieu où Dieu médaber. Ça veut dire quoi médaber? Ça veut dire il parle. En hébreu, le désert veut dire en fait de lui on parle. Tout est. Moi je ne dis pas étude biblique. Je dis avec le Seigneur, c'est une dégustation biblique. Même les mots. Mais tellement il parle que c'est beau. C'est très beau. Dans le désert du Sinaï, Dieu parla. Il a parlé dans le désert. Après. C'est pourquoi mon épouse infidèle. Ça se peut qu'il parle à l'église. Hein, parce que chrétien, est-ce qu'on est vraiment une épouse fidèle? C'est ça, se poser la question. Mais malgré ça, malgré l'infidélité, qu'est-ce qu'il dit? Je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'où? Jusqu'au désert. Si on est infidèle, n'attendez pas à ce qu'il y ait une grâce qui dise. Non, il nous envoie dans le désert. Payez le prix. Réalisez de ce que nous sommes. C'est à ce moment-là que Dieu parle, dans le désert. Le désert peut être un lieu de discernement, un lieu pour faire des choix importants, une sorte de voie d'accès à la vérité. C'est un lieu, et là je le mets en gras, de repentance, mes frères et sœurs. On ne se repent pas quand tout va bien. On se repent quand ça va mal. Je répète toujours mon exemple. Quand je me suis fait opérer, c'est à ce moment-là que j'ai prié le plus. Je demandais pardon, si aucun moment dans mon anesthésie, il n'arrive pas que ce soit, je reviens, je ne suis plus de ce monde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai prié, je demande même pardon, tout, si au cas où. Mais cette prière, on doit la faire tous les jours. Vous voyez? C'est tous les jours, on doit faire cette prière, c'est pas seulement parce que j'étais anesthésié. Le désert peut être un lieu de manque qui ouvre à la rencontre. C'est quand Jean Daris n'a plus rien ici. Il est apte, il est ouvert. Il accepte tout. Quand j'ai posé la question, de quoi tu as besoin? Ce que vous voulez. S'il avait les moyens, tout ça. De quoi vous avez... Ah, ça, je réfléchis. Le portable, je l'aime. Si tu veux me trouver un iPhone, ce serait bien. Parce qu'il faut monter un peu de gamme. Mais quand on n'a rien, la réponse, je me rappelle, il m'a dit, ce que vous voulez. Et bien, c'est le Seigneur ce qu'il attend. Seigneur, ben, ce que tu veux, mais pas ce que je veux. C'est pourquoi il est bon et indispensable de s'examiner devant Dieu, notre Église, notre communauté, chacun de nous, on n'avancera jamais si chacun de nous ne se met pas à nu devant Dieu. On fera semblant. Et dans 20 ans, 30 ans, sur un certain âge, si on est de ce monde, on se regarde, on dit, ah, ben, ça n'a pas changé beaucoup. Eh bien, rappelons-nous, parce qu'on n'a pas la repentance, la sincérité devant Dieu, à genoux, et laissons-le nous transformer. Et là, peut-être que le Seigneur œuvrera. L'Église est le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Ce sel et cette lumière ne viennent pas de nous. Ce sel et cette lumière ne sont rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas que le Seigneur nous donne le sel, donne la lumière. Non, ça c'est mensonge aussi. Le Seigneur est le sel. Il est la lumière. Ne séparons pas les choses de l'origine des choses. Nous n'avons pas besoin de sel et de la terre. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand. L'origine du sel et de la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et souvent, on cherche des choses et on oublie celui qui a l'origine des choses. C'est pour ça, cherchons le Seigneur, pas les choses. Le Christ est le sel de la terre qui est la lumière du monde. Et c'est comme ça qu'on peut savoir qui est le Seigneur. Rappelons-nous l'histoire de l'apôtre Paul. Ça m'a toujours intrigué. Quand il était sur la route de Damas, la lumière est tombée, il est devenu aveugle. Et d'un seul coup, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Corrigez-moi, s'il vous plaît. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui es-tu, Seigneur? C'est seulement plus tard, il a dit, que veux-tu que je fasse? Non, l'inverse. Dès que je suis chrétien, oh, allez, avec mes forces, Seigneur, que veux-tu que je fasse là? Qu'est-ce que je fais là? Hop, dis-moi, hop, allez. Non. Il a dit, qui es-tu? Tu dois chercher à connaître ton Seigneur. Et quand tu as grandi dans cette communion avec lui, c'est lui qui te dira d'y aller ou pas. Vous voyez comment on inverse ? Qui es-tu, Seigneur ? Et ce qui es-tu, ça s'apprend, mes frères et sœurs, dans le désert. Pas dans l'oasis, dans le désert. Une épreuve salvatrice, c'est-à-dire une épreuve qui nous transforme, qui nous régénère, qui nous métamorphose. Et en général, quand on est transformé dans le désert, on ne demande pas à Dieu de le servir. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse ? Rappelez-nous, il voulait le servir au début. Il a défendu les Juifs. Et quand il voulait le servir, il l'a tué. Et pourtant, il était sincère, non ? Comme nous. Et pour lui apprendre, Dieu pour lui apprendre qui est-il ? Dans le désert. Devenu berger, plus rien, oublie. Et quand il est monté pour le rencontrer, il ne lui a pas dit, envoie-moi. Ah non, mais qui suis-je ? Non ! Le serviteur qui dit, Seigneur, je veux te servir, je me méfie. Le serviteur qui dit, je ne veux pas, là je dis, allez, Seigneur, va travailler. C'est quelque chose qui m'a toujours... Quand on dit, je veux, on ne sait pas d'où on va. Mais quand on n'en veut pas, le Seigneur va nous chercher. Mais attention, mais entre, je ne veux pas, je grandis dans la communion avec le Seigneur, et c'est lui qui décide. S'il le faut, il nous envoie. Tout va bien ici en France, donc on peut le servir. Hein. Allez-y en Tunisie, au Maroc, en Afrique, en Afghanistan. Je ne vois pas beaucoup qui disent, Seigneur, je veux te servir. Non, je veux te servir, mais envoie-moi dans un endroit, tout va bien. Je me forme, après je vais aller ailleurs. Pourquoi non ? Laisse le Seigneur nous former. Après, c'est lui qui dirige toutes choses. Le chiffre 40 a un sens. 40 jours dans le désert. C'est symbolique, 40. On l'a souvent... Le chiffre 40, c'est en rapport avec la mise à l'épreuve. Mais attention, il faut terminer la phrase. C'est mise à l'épreuve qui passe de la mort à la vie. C'est ça la phrase qui manque. Mise à l'épreuve, pas pour rien, comme ça, mais qui doit aboutir à la vie. Donc dans l'histoire de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de 40 jours. Des fois, ça se finit bien, la vie. Mais des fois, ça se finit mal, c'est un enseignement pour nous. La mort. Je ne vais pas toutes les citer. Quelques. Déluge 40 jours. Mais on oublie une chose. Il y avait beaucoup de monde quand même avant le déluge, non ? Ils sont tous montés dans l'arche. Ah non. Il n'y a qu'un avec sa famille. Ça veut dire quoi ? Il y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Rappelons-nous de ça parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre sa vie. Hein. Je vous dis, ça parce qu'on a beaucoup d'importance, beaucoup de choses dans le monde, mais le plus important c'est quoi ? C'est d'atteindre, d'être avec Christ pour l'éternité. Et mon éternité se prépare aujourd'hui. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Si Dieu m'appelle à la repentance, non, je ne dis pas, ah non, attendez, j'ai un repas l'après-midi. Et ce soir que je serai rentré, je prends ma douche, je mets le chauffage, et là je vais prier pour la repentance. C'est pas la repentance. Il est immédiat. Ça veut dire quoi immédiat ? Je suis dérangé au fond de moi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Aussitôt ! C'est là le aussitôt. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est juste pour vous dire que des fois, c'est le cas, le règne de David, bien commencé, au milieu pas bien, bien terminé. Le roi Saül, on voit pas comment, pourtant il s'était appelé, il était béni, il était choisi par Dieu, mais c'est mal fini. Ça veut dire que l'épreuve, elle peut mener à la vie, mais comme elle peut mener à la mort. Si on la passe avec Christ, ça mène à la vie. Si on continue à lutter jusqu'à devenir rebelle, ça mène à la mort. C'est à nous de choisir. C'est cela, pour moi, la connaissance, connaître, naître avec. La vraie connaissance, c'est la vie. J'avance vite. C'est pourquoi nous avons besoin de nous attacher au Seigneur et on n'a besoin que du Seigneur et rien d'autre. Et il y a quelque chose qui m'a intrigué, j'en ai parlé à la maison, Viviane. Durant le ministère terrestre du Seigneur, vous vous rappelez, il y avait les 12 disciples. Et si on lit les évangiles, ils étaient toujours avec lui. Et des fois, quand ils s'absentaient, ils le cherchaient. Il était à côté d'eux, mais tout le temps le cherchait. Mais quand il parlait, il buvait ses paroles. Il l'écoutait. Ils étaient heureux. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, ils étaient. Encore plus quand tu faisais des miracles. Ils étaient avec. Mais nous sommes plus privilégiés qu'eux. On oublie ça. Dieu nous a fait un cadeau encore meilleur que les disciples. Ils doivent être jaloux, je vous assure. Parce qu'ils ont vécu après, mais après ils ont, certains ont vécu, mais nous, il y en a qui restaient, s'ils étaient en vie après, ne sont plus avec nous. Alors vous allez pleurer. Ne sont plus avec, oui, ne sont plus avec. Parce que au lieu d'être à côté de nous, il est en nous. Est-ce qu'on se rend compte de ce privilège que nous avons? Nous sommes Christ en nous. Pas physiquement, bien entendu, mais par son Esprit Saint. Alors maintenant, la question que je me suis posée. Ils étaient avec lui, ils couraient derrière, ils lui parlaient. Et nous, maintenant qu'il est en nous, est-ce qu'on court derrière? Chacun doit s'examiner. Est-ce que le matin, je me lève, je dis, Seigneur, je viens, t'es là, mais je veux te parler. À midi, j'ai besoin de t'écouter. Comme les disciples faisaient. C'est le début de la foi. Si je ne sens pas le besoin de parler à mon Seigneur, ben je sais où je suis. Celui qui est à côté de moi, je peux m'éloigner, je peux tourner le dos, etc. Qui est en moi, eh ben je peux aussi mettre un voile. Et pourtant, il est là. C'est là on doit s'examiner. Communion avec le Seigneur. Alors maintenant, concernant dans le désert, donc Marc n'en parle pas. Mais on le voit dans l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, les détails de la tentation. Donc je ne vais pas aller dessus, vu l'heure. Et en plus, je ne peux pas aller dessus. Et en plus, c'est quelque chose de très intéressant. La prochaine fois, peut-être une autre fois. Mais là, on voit que le Seigneur envoie Galilée. Regardez, il était à Nazareth. Galilée, il est parti pour le baptême. Rappelons-nous, on a dit que Galilée, Nazareth. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien sort de Nazareth? C'est écrit. En fait, Galilée-Nazareth, c'est quelque chose de... C'est n'importe quoi. C'est des ploucs. Vraiment. Et pourtant, c'est de là qu'il est parti, le Seigneur, pour le baptême. Et après, il part dans le désert. Et en fait, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que le Seigneur a intégré toute notre humanité dans son épreuve au désert. On était tous là avec lui. Pourquoi? C'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé pour Adam? Adam était dans le jardin d'Éden. Il a désobéi vers le désert. Viré vers le désert. Et bien, le Seigneur a fait le chemin inverse. Il est allé rejoindre Adam dans le désert. Nous, il a pris la direction du jardin. Pour nous dire que la défaite d'Adam, inéluctable, c'est arrivé. Dont nous sommes les héritiers, condamnés, tout ce que vous voulez. Et bien moi, je vais le chercher. Je vais vous chercher. Et je vous ramène vers le jardin. Où est-ce qu'il est crucifié, le Seigneur? Dans un jardin. Où est-ce qu'il est ressuscité? Dans un jardin. Où est-ce qu'il s'est lamenté dans la prière, tout ça, avant le... Dans un jardin. Vous voyez le chemin? Du désert vers la croix, vers la mort et la résurrection. Si nous ne réalisons pas, mes frères et sœurs, je le dis du fond du cœur, que nous sommes dans un désert, nous sommes un désert, on n'appréciera pas le jardin. On continuera souvent le dimanche. Même en dehors, on se fera la bise, même dehors. Même des fois, j'ai vu des chrétiens, ils se font de la bise à l'église, mais quand ils sont dehors, ils ont honte. Je l'ai vu. Dis non. T'es chrétien ici, partout? Non. Le monde, les gens qui voient. Ouais. Si on ne réalise pas que nous avons besoin du Seigneur et qu'il est venu nous chercher dans le désert, on restera dans le désert. On croit et on est dans un jardin, et pourtant on est dans le désert, et on restera dans le désert. Et rappelons-nous, la première génération des Hébreux n'ont pas atteint la terre promise. Mort. Est-ce que nous voulons que ce soit notre destinée, ça? Moi, si j'arrive là, c'est que j'ai raté. C'est pour ça que chacun de nous doit s'examiner, et nous avons la responsabilité de nous avertir ensemble. Le Seigneur a fait le chemin inverse d'Adam et d'Ève pour devenir notre arbre de vie. Voilà le sens de l'arbre de vie. Dans ce jardin, Jésus crucifié sur une croix se dresse comme la porte qui nous fait passer de la mort à la vie. Il se présente en tant que le chemin, la vérité et la vie. Il se rend disponible. C'est à nous d'aller vers lui et ne restons pas à notre place. Allons vers lui. Il connaît notre chemin. Il l'a déjà passé une autre. Il a payé le prix. Et c'est lui qui a vaincu, pas nous. Et c'est dans cette victoire que nous appelle à vivre. Comment aller vers lui? Ah oui, il faut toujours revenir à la pratique. Maintenant, les paroles, c'est bien intellectuel. On va sortir aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Mais pratiquement, dans ma conduite de tous les jours, c'est ça le plus important dans la parole de Dieu. La ramener à ma vie. Que quand je sors, je serai meilleur. En le cherchant en tant que Seigneur et Sauveur, comment? Et je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Il faut le chercher dans la prière. Oh, j'ai dit un gros mot encore. Dans la prière. Vous priez, mes frères et sœurs ? Chacun doit poser la question. Vous priez le matin, midi, soir ? Vous priez. La prière, ce n'est pas à genoux, l'autre voix, tout ça, non. Attitude de cœur. À tout moment, je peux prier. Est-ce que vous lisez votre Bible ? Et quand je dis cela, je m'adresse à moi. Hein. Je me mets dans le vous. Dieu ne nous appelle pas à une apparence. On peut devenir des religieux. Et on a lu mercredi un passage qui m'a parlé encore. Qu'est-ce qui est super. Regardez. Et là, on a tout. On a tout. Mais vraiment, on a tout. Hein. On l'a lu mercredi. Je le lis. Et j'arrive à la fin. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Deux chrétiens. Deux chrétiens montent au temple, voilà, qui viennent le dimanche. L'un était pharisien, religieux, droit, là, tout ce que vous voulez. Hein. Pharisien. L'autre publicain. Alors l'autre péché. Alors là, l'autre, c'est vraiment le plus bas des chrétiens. Ça existe, le plus bas des chrétiens. Le pharisien, debout, regardez, debout, priait ainsi en lui. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, pas comme le monde, comme ces gens-là, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Moi, je ne fais pas tout ça, moi. Ou même comme ce... pas comme ce publicain-là. Et je jeûne deux fois à la semaine. » Oui, beaucoup de choses, hein, la semaine. « Je donne de la dîme de tous mes revenus. » Le chrétien, on est convaincu. Hein. Et l'autre, le publicain. « Se tenant à distance... » Regardez l'attitude du cœur du chrétien simple. Il se tient à distance, j'ai la honte. N'osez même pas lever les yeux au ciel. La crainte de Dieu. On est en présence de la sainteté. Et des fois, ça me choque. Je vous le dis, ça me choque. Quand on dit le Seigneur, c'est mon pote. Et sincèrement, je vous le dis, peut-être c'est culturel, parce qu'on a ce... Ça me choque. Oh, c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, je dois avoir la crainte, là, c'est pas mon pote. Non, mais on est en train de parler au Seigneur, le Créateur, mon pote. Non, vous parlez au Seigneur comme on veut. Non, on ne parle pas au Seigneur comme on veut, non, je suis contre ça. C'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, c'est la crainte, c'est la sainteté. Il y a une attitude, je ne sais pas, moi je dis toujours, quand je vais mener à mon rendez-vous, je suis bien, je me prépare, mais quand je vais au Seigneur, c'est pas grave. Peut-être aussi qu'on le prie avec un verre dans la main. Avec 4 grammes, autant de prier le Seigneur. Non, mais quand on arrive là, je fais exprès d'exagérer pour dire, mais on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait. N'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. » La repentance. Envers moi qui suis un pécheur. Voilà l'attitude du cœur d'un simple chrétien. Quand il cherche le Seigneur par l'Esprit. L'Esprit, en fait, quand il vient sur nous, on pense tout de suite, ah, il nous donne la puissance. Non. Il met une lumière sur nous. Et d'un seul coup, on se découvre comme nous sommes. Ah, je suis comme ça, moi. Quelle honte. C'est le rôle de l'Esprit, ça. L'Esprit, ça me montre comment je suis. Et je me rends compte d'un seul coup, rien de bien n'habite en moi. L'apôtre Paul. Et je ne peux que m'agenouiller et prier. Et c'est à ce moment-là que je réalise que je suis pauvre pécheur. Et là, le Seigneur dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Et je termine. Le chemin de la repentance, c'est le chemin de la vie. Cherchons à connaître notre Seigneur, pas les choses du Seigneur, mais le Seigneur. Soyez honnête avec Dieu, avec soi-même. Et ce n'est pas parce qu'on fait semblant entre nous que vous êtes sauvés. Ça peut être même le pire. Nous pouvons continuer à mener notre vie comme bon nous semble, en étant conscients de la finalité, qui sera la perdition éternelle. Et être chrétien, ce n'est pas un sésame. Si nous sommes conscients que le Christ, Fils de Dieu, est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est notre priorité, notre vie, notre raison d'exister, on a besoin de l'oxygène pour respirer, cherchons à le saisir, comme le dit si bien l'apôtre Paul, et ce sera la fin de mon intervention ce matin, que ce passage de l'apôtre Paul soit le nôtre, et si l'apôtre Paul le dit, qui nous sommes. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, de le connaître, lui, pas ses choses, à lui, de le saisir, connaître. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, si l'apôtre Paul le dit là, qui suis-je? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il a toujours soif. On aura toute l'éternité pour le connaître encore, oui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons de ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Où en sommes-nous? Que Dieu nous aide. Amen.